Il boit le sang de nos enfants. Il impose la dictature. Il amène le communisme. Dimanche, contre la NUPES, votez les doigts dans le nez. Eh oui, c'est après la foire qu'on compte les bouses. Mais là, c'est avant. C'est partout. Écoutez bien, dimanche prochain, mobilisez-vous contre l'extrême gauche qui déteste la police et veut augmenter vos impôts. Eh bien ça, c'est un message d'un certain Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui tripatouille les résultats. Même le journal Le Monde lui donne tort. C'est la NUPES qui est arrivée en tête et qui arrivera en tête dimanche prochain si vous suivez notre plan. Notre plan, le voici. Vous ouvrez la liste de vos contacts, tous vos contacts. Vous appelez chacun, vous laissez des messages. Dimanche, tu votes NUPES. Et tu t'abonnes là-bas si j'y suis. Vous sonnez chez le voisin, vous le dites à tout le monde, vous le criez sur les toits, dimanche, votez NUPES. Et abonnez-vous là-bas si j'y suis. C'est comme au rugby, il faut transformer l'essai. Le président des riches n'a plus que les riches pour le soutenir, et les riches sont les moins nombreux. Ils ont les milliards, mais on est des millions. Et les cigares vont changer de bouche. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Vous vous souvenez de cette chanson?
Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG.
C'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire. C'est une chose à pas oublier, oui, mais...
Quand les gibus y changeront de tête, eh ben c'est ça dont on va causer aujourd'hui. Les riches. C'est là qu'est la solution, les amis, chez nos amis les riches. Le pouvoir d'achat, la santé publique, l'éducation, le logement, les 9 millions en dessous du seuil de pauvreté, pour tout ça, on sait où trouver l'argent. Entre 2010 et 2022, les 500 plus grandes fortunes de France ont augmenté leur richesse de 200 à 1000 milliards d'euros en 12 ans. Ils sont passés de 10% du PIB à 40% du PIB. Et là, il y a largement de quoi financer la santé, l'éducation, la transition écologique et fumer des cigares et même des petits pétards. Alors vous rigolez, mais vous savez que Roosevelt, ça vous dit quelque chose? Eh bien Roosevelt, il l'avait fait au temps du New Deal dans les années 30 aux États-Unis, après le krach de 29, il avait imposé les riches jusqu'à 90%. Ça a duré des années, ça a évité le pire, ça a permis de faire plein de choses très bien, et les capitalistes américains sont pas plus tendres que les nôtres, et ils ont survécu. C'est tout à fait possible de réduire les privilèges, et c'est même possible de les abolir. Et c'est ce qu'on a fait, nous autres, en France, le 4 août 1789. La nuit du 4 août, c'était l'abolition des privilèges. Après la prise de la Bastille, de partout, le peuple, les paysans étaient en colère. C'était un genre de gilet jaune en moins gentil. Alors, cette nuit-là, on a aboli les privilèges des ecclésiastiques, des nobles, des corporations et même des villes et des provinces qui avaient des privilèges. C'est la nuit de la destruction du système féodal qui durait depuis des siècles.
Au feu de la noblesse, plus de méchants, plus de grimoires, plus d'or, monsieur le comte. Toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps.
Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ses droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance.
Notre collègue Breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis.
Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers.
Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines.
Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps.
Ben oui, si on leur demande gentiment, les privilégiés eux-mêmes sont prêts à se libérer des chaînes de leurs privilèges. Comme nous, sans doute, très longtemps, nos ancêtres se disaient « Bof, on n'y peut rien, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, c'est l'ordre des choses. » Et puis ils disaient « Notre dressage est réussi », avec ce mélange d'admiration pour les riches, de vénération, de soumission, de crainte. Les riches, ils donnent du travail aux pauvres. Merci notre bon maître. Et puis, un jour, vient l'envie de leur casser la gueule. On pète les cadenas, on leur balance les boulets à travers la gueule. C'est la révolte. C'est un beau jour et c'est un grand soir.
Nous sommes tous citoyens, toutes frères. Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs.
Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave.
Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive.
Mes ancêtres, mon sang.
Alors regardez voir, vous allez être fiers. Voici les 5 Français les plus riches. Françoise Bettencourt-Meyer, Gérard Wertheimer, François Pinault, Alain Wertheimer et Bernard Arnault. Selon l'ONG Oxfam, ils sont 2 fois plus riches qu'avant la pandémie. Leur fortune a davantage augmenté pendant la pandémie que pendant ces 10 dernières années. Et c'est plus que ce qu'a coûté la crise sanitaire et économique liée au Covid en 2021. Des profiteurs de crise, comme il y a eu des profiteurs de guerre qui étaient peut-être aussi parmi leurs ancêtres. Et là, ils ne sont que 5, mais la quarantaine de milliardaires français ont augmenté leur richesse de 236 milliards en 19 mois de crise sanitaire. Un montant qui permettrait de multiplier par 4 le budget de l'hôpital public ou de donner un chèque de 3500 euros à chaque Français. Rappelons que c'est l'intervention de la BCE, Banque Centrale Européenne, qui a soutenu les ultra-riches pendant la Covid. est-ce qu'on pourrait demander poliment à Monsieur Macron qu'il leur demande poliment de faire un petit geste? Eh ben non. Mais on a un autre souci avec les riches, c'est qu'ils puent.
Une réalité connue, mais de nouveau confirmée, les riches sont ceux qui polluent le plus la planète et de très loin. D'après un rapport d'Oxfam qui a analysé les données sur 25 ans, les 1% les plus fortunés polluent deux fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'ONG s'est basée sur les émissions de CO2 liées à la consommation des différents groupes de revenus entre 1995 et 2015. Voici ce qu'elle en a déduit. Les 10% les plus riches représentent à eux seuls 52% des émissions de dioxyde de carbone. Il s'agit essentiellement des Américains et des Européens. Et les 1% les plus riches représentent 15% des émissions. La moitié la plus pauvre de l'humanité, plus de 3 milliards de personnes, ne pèse en revanche que 7% des émissions. L'ONG, qui dénonce une surconsommation dévastatrice, appelle à saisir l'opportunité des plans de relance post-Covid pour rétablir une justice climatique. Au rythme actuel, le budget carbone pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré sera épuisé d'ici 10 ans.
Et là, c'est nouveau. Il y a toujours eu du sang de pauvres dans l'argent des riches, du sang, de la sueur, des larmes, tout ce qu'ils ont détruit, tout ce qu'ils ont pillé, la nature, les idées, l'esprit, l'art, l'imaginaire. Oui, ils ont tout exploité, mais en plus, maintenant, ils détruisent la vie sur la planète. Et il faut remettre ça en avant. Lutte sociale et lutte pour l'environnement, ça marche ensemble. Il y a un vieux fossé entre les rouges et les verts, ça date pas d'hier. Depuis longtemps, ceux qui détiennent les leviers politiques et financiers sont les promoteurs d'un modèle de consommation à outrance, dévastateur pour la planète. Le capitalisme a besoin que nous ayons envie de ce dont nous n'avons pas besoin. Et depuis longtemps, on a compris que transition écologique et justice sociale sont inséparables. L'international, les riches ne la chantent pas, mais ils la font.
En un mois, le jet privé de Bernard Arnault a pollué autant qu'un Français en 17 ans. En regardant les trajets effectués par ces milliardaires, vous avez de quoi déculpabiliser de votre propre empreinte carbone. Voici le bilan carbone du jet privé de Bernard Arnault, mais le pire, c'est son yacht. 176 tonnes de CO2 en mai, c'est ce qu'a émis le Français le plus riche du monde. C'est 17 fois l'empreinte carbone d'un Français qui émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Ce chiffre vient du compte Instagram L'Avion de Bernard, qui calcule chaque jour l'empreinte carbone du jet du milliardaire. Ce compte s'inspire de l'initiative d'un jeune Américain, Jack Sweeney, qui a décidé de créer une page Twitter dédiée à Elon Musk et ses déplacements en jet. Un trajet en jet privé, c'est une bombe carbone. Un trajet Paris-Nice, c'est 3 tonnes de CO2 émis, soit 1000 fois plus qu'un trajet en train. Et la plupart de ces vols ne durent même pas une heure, parfois même moins de 10 minutes, comme ce trajet entre Londres-Ouest et Londres-Est, effectué par Bernard Arnault le 28 mai dernier. Deux anthropologues ont d'ailleurs calculé qu'est-ce qui polluait le plus dans les habitudes de vie des milliardaires. Résultat, selon leur étude, ce n'est pas l'avion qui pollue le plus, mais leur yacht. Un super yacht avec des piscines, un héliport ou encore des sous-marins, ça émet 7000 tonnes de CO2 par an. Selon ces chercheurs, c'est le pire actif à posséder d'un point de vue environnemental. Toujours selon leur étude, c'est Roman Abramovich qui est le plus gros pollueur des ultra-riches. Son super yacht, le deuxième plus grand du monde, est responsable de 2/3 de ses émissions de CO2. Avec ce classement, on constate que les milliardaires qui ne possèdent pas de yacht ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que ceux qui en possèdent un. C'est le cas notamment de Elon Musk ou de Jeff Bezos, qui semblent être de petits pollueurs. Mais attention, même en polluant moins, ces milliardaires sont très très loin des recommandations du GIEC. Selon le groupe d'experts pour le climat, il faudrait se limiter à 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Avec un seul trajet Paris-Nice, ces milliardaires explosent ce score.
Au moins 100 mètres de long si vous voulez pas être ridicule. Ça coûte à partir de 10 millions d'euros.
entretien annuel, 1 million d'euros. Et 500 litres de fuel à l'heure. Il y en a 6000 à travers le monde. Et le CAC 40, n'oublions pas cette année les chiffres records du CAC 40, 137 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 en 2021. 70 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires du CAC 40. Et total, 15 milliards d'euros, le résultat net le plus élevé réalisé par une entreprise française. Répétons-le, selon le World Inequality Lab, un collectif de chercheurs en sciences sociales, selon son rapport de 2022, les 10% les plus fortunés émettent 4 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les moins fortunés.
La somptueuse propriété du milliardaire suisse Jean-Pierre Slavik donne directement sur le lac. Sa voiture de tous les jours, une Aston Martin Vanquish, un petit caprice à 200 000 euros. Jean-Pierre Slavik a fait fortune dans l'horlogerie. Pour lui, l'automobile, c'est un art et sa passion, ce sont les Ferrari. Quelques miniatures sont exposées à l'étage, mais son véritable trésor, Jean-Pierre Slavik, ne le fait pas découvrir au premier venu. Sa collection est l'une des plus belles au monde. Alors, ses joujoux sont bien gardés. Dans un sanctuaire invisible, en surface, il est enterré sous la pelouse.
Dessous, c'est vide et la dalle supporte cette quantité énorme de terre. C'est fou de voir ça, non ?
1400 mètres carrés de béton supportés par 220 tonnes d'acier. Un véritable bunker.
Donc, si on veut garder une automobile pendant 30 ans dans un état parfait comme le premier jour, on se doit de les conserver dans des coffres forts qui sont parfaits. Bon, j'ai essayé de faire ça. Voilà.
Un coffre-fort souterrain. À 17 mètres sous terre qui abrite son inestimable trésor. Ses voitures rouges, comme il les appelle. Pour mettre en valeur ses Ferrari, Jean-Pierre Slavik a fait fabriquer un écrin sur mesure, en marbre noir. L'un des fleurons de sa collection, la Ferrari 250 GTO. La voiture mythique de la marque italienne. Elle vaut entre 15 et 20 millions d'euros. Les célébrités se l'arrachent. L'acteur Nicolas Cage en possède une, comme le batteur des Pink Floyd, Nick Mason, ou le couturier Ralph Lauren. Mais pour Jean-Pierre Slavik, ce n'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est le coup de cœur.
Il y a un côté macho, et puis il y a un côté enfantin. On semble de dire, bon ben voilà... Je suis rentré dans un magasin, j'ai acheté, et puis certaines, j'ai moins joué avec, donc je m'en suis séparé.
Il faut qu'on aille au stand Ferrari parce qu'ils ont sorti une nouvelle voiture. Il paraît qu'elle est assez fantastique, alors j'aimerais aller la voir avant que ça ferme. Donc hop, allons-y.
Comme dans tous les salons automobiles, les constructeurs ont des arguments pour attirer l'œil des clients. Car ils le savent, que ce qui déclenche l'achat chez les passionnés capables de signer un chèque à 5-0 pour une voiture, c'est le désir. L'envie d'avoir mieux, plus beau, plus rare que les autres. Épater la galerie en acquérant un modèle unique ou en série limitée. Jean-Pierre Slavik, venu pour découvrir la dernière née des Ferrari, va-t-il l'acheter aujourd'hui ? Sa réputation de collectionneur sans limite le précède. Alors il va être l'objet de toutes les sollicitudes, comme ici, chez Pagani.
C'est une voiture qui est extraordinaire parce qu'elle a une puissance fantastique. Elle est développée par Mercedes. Et la dame est là, mais je ne sais pas où est son mari, par contre.
Mon mari, je n'ai pas de mari, je suis célibataire.
C'était juste à la télévision, là, tu vois.
Hey. C'est fou ce que les riches peuvent être cons. Mais surtout, ils salopent tout. Et n'oublions pas que le 14 octobre 2021, l'État a été condamné pour préjudice écologique. Le gouvernement français a été condamné pour dépassement du plafond d'émissions de gaz à effet de serre de 2015 à 2018. Alors on répète que c'est les pays riches qui polluent le plus.
c'est vrai, mais c'est surtout les riches des pays riches et aussi les riches des pays pauvres qui émettent le plus de CO2. Plus on est riche, plus on consomme et plus on pollue.
Les plus riches détruisent la planète et ne paient rien pour ça. Alors chez Greenpeace, on propose un ISF climatique. Bon, déjà, pourquoi dit-on que les plus riches détruisent la planète ? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, le mode de vie. Consommer, ça pollue et les plus riches consomment plus. Le chauffage, l'essence, le logement, la nourriture. Si on cumule toutes les émissions de CO2 à tous les niveaux, les plus riches polluent 4 fois plus que les plus pauvres, rien qu'avec leur mode de vie. Mais ce n'est qu'une petite partie du problème. L'autre partie, c'est le patrimoine financier. Le patrimoine financier, c'est quoi ? C'est tout l'argent qu'on place. Ça recoupe l'épargne, les investissements, les actions en bourse, etc. Et ça, ça a un impact énorme sur la planète. Par exemple, si j'investis mes sous chez BNP Paribas, ça paraît plutôt inoffensif. Sauf que mon investissement, il va financer les activités de BNP Paribas. Et ces activités, en 2018, elles ont émis 782 millions de tonnes de CO2. Ainsi, on peut calculer qu'un investissement de 1000 euros émet 16 tonnes de CO2. Donc, c'est pas anodin le patrimoine financier. Et chez Greenpeace, on a calculé que les placements des plus riches polluent 66 fois plus que ceux des plus pauvres. Pourtant, les plus riches sont ceux qui payent proportionnellement le moins d'impôts en France. En 2018, Emmanuel Macron a transformé l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Rien qu'avec cette mesure, les impôts des ultra-riches sont descendus à 46,6% de leurs revenus. Alors que pour la moyenne des Françaises et Français, c'est 50%. Les conséquences, c'est les inégalités qui se creusent et c'est la planète qui se dégrade. Comment on peut changer ça ? Chez Greenpeace, on demande un ISF climatique pour faire payer aux plus riches leur impact sur le climat. Ça s'appelle le partage de l'effort. Résultat, pour payer moins, les riches devront investir dans une économie décarbonée. Transformer l'économie, ça fait partie de la solution à la crise climatique. Cet ISF climatique, on vous l'explique dans le rapport qu'on a produit. Si ce sujet vous intéresse, il est dans la description. Merci d'avoir écouté et à bientôt.
Eh oui, n'investissez pas dans la pollution, investissez dans le bio, dans le durable. Heureusement, il y a ces grandes ONG pour nous indigner et pour nous rassurer. Un autre capitalisme est possible, le capitalisme vert. Voilà l'avenir. Et mettez un pouce bleu. Voilà, comme on a eu peur que vous sachiez pas trop quoi faire après la victoire de dimanche prochain, quand le grand méchant Mélenchon, sur son char, descendra les Champs-Élysées, on s'est dit que l'abolition des privilèges, ça pouvait être une occupation, puis peut-être bien une solution. Après tout, comme dit Emmanuel Macron, nos vies valent mieux que leurs profits. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous appelez tout le monde, vous faites voter tout le monde, et si vous tombez sur des privilégiés, des riches avec leur jet et leur yacht, vous les faites voter aussi. Et vous les abonnez aussi à la base si j'y suis, ils peuvent même faire un don, dites-leur que c'est défiscalisé. Mais leur parlez pas de cette histoire d'abolition des privilèges, c'est pas la peine, on leur fera la surprise. Et pour finir ce sixième mercredi tôt, une perle, Brassens avec son vieux copain Jacques Grélot, qui était un chansonnier et qui avait offert à Brassens sa première guitare. Il fait beau.
Quand le soleil s'est levé, là-bas derrière Pantin.
Mais attends.
On a une dans le petit matin.
Je sais pas très bien les accords, vas-y, laisse-le chanter.
Quand le soleil s'est levé dans le petit matin, ça n'a été qu'un cri. Non. Quand le soleil s'est levé d'abord derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris, puis le chant ventre à ciel. Aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la Muette à Pigalle, on se l'est répété. Une bonne nouvelle vraie, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau. Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotones et charmants. Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut. En fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure. Bientôt nous étouffons, on a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud. Sur la chaussée brûlante, les touristes en moiteur cherchent leur route à l'ombre des jeunes flics en sueur. Il fait chaud, partout dans les bistrots, on prépare les grands verres, on aboie content, on se fait monter de la bière, il fait chaud. Ah là 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 là, je savais pas quoi mettre, alors j'ai mis la lèvre. Les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus tant de choses douces au toucher. C'est beau, elles sont drôlement pin-up, si j'en trouve une qui veut, je m'en vais gâcher ma vie pour elles. Une heure ou deux, c'est chaud. J'en voudrais une bien fraîche dans une petite pièce bien sombre. Moi, ce que j'aime dans le soleil, c'est qu'on peut se mettre à l'ombre. Fait chaud, l'amour en plus légère. Au fond, j'aime assez ça. Surtout que c'est le seul sport où ma myopie me gêne pas. Fait chaud, nous en vêtons pas. Puis enfin, c'est le soir.
Regagnant avant l'heure. Oh, terrible goût.
Alors, délaissant avant l'heure son torride du boulot,
bureau,
bureau, monsieur Dupont chez lui, rentré bien trop tôt. Il fait chaud, il a trouvé sa femme, seule avec un monsieur, à part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux. Il fait chaud. Dupont restait sans voix, sa femme ne disait rien, alors l'autre type a dit, comme ça qu'on est bien. Il fait chaud. Vous croyez, dit Dupont? Je peux vous l'affirmer, Dupont s'est dévêtu, tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin, c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges répètent avec satisfaction. Il fait bon, dans le ciel assombri, les hirondelles font, en poussant de petits cris, une partie de saute-moucheron. Il fait bon, et le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il n'a pas de temps à perdre, s'il va être revenu demain, on compte sur lui de bonheur là-bas, derrière Pantin, il sera beau, ça nous plaira bien.
Thank you.